Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, après Albert Einstein, que reste-t-il de la notion de temps ? En 1905, Albert Einstein et Mileva Marić, sa femme, sont installés à Berne depuis 3 ans. Ils ont un petit garçon, prénommé Hans Albert, qui a vu le jour en juin 1904. Albert travaille comme ingénieur de 3e classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Mais certains soirs, chez lui, il travaille à ses propres calculs, sur une petite table, en berçant son fils. C'est dans ces circonstances que, sans que personne ne le sache, il construit, brique par brique, un nouvel univers au calme, entre brevets, rêveries, soirées amicales, langes et babillage. Un univers radicalement neuf, que son auteur, qui n'appartient ni au sérail universitaire, ni à aucune académie officielle, ne va pas tarder à présenter à la face du monde. Entre mars et septembre 1905, Albert Einstein publie en effet 5 articles remarquables, déployant des idées qui, telles des fusées de repères dans l'obscurité de la nuit, ont soudain jeté un éclair bref mais puissant sur une immense zone inconnue, comme dira plus tard le physicien français Louis de Broglie. C'est pourquoi l'on parle de 1905 comme de l'année miraculeuse de la physique, sans oublier que cette année-là fut aussi celle de la mutinerie du cuirassé Potemkin, des créations de la mère de Debussy, du partage de Midi de Claudel et du garçon à la pipe de Picasso. Mais bon, ce n'est pas notre sujet, car notre sujet du jour, c'est l'un de ces fameux articles d'Einstein, le 4e, celui de juin 1905, qui bouleverse l'idée que les physiciens se font de ce qu'ils appellent le temps. La théorie de la relativité qu'il met là sur pied, celle qui sera par la suite dite restreinte, promeut l'espace-temps en remplacement des concepts jusqu'alors séparés d'espace et de temps. Mais ce papier n'était pas la fin de l'histoire. 10 ans plus tard, en 1915, alors qu'il est installé à Berlin, Einstein bouleverse le temps d'une seconde fois avec sa théorie de la relativité dite générale, qui est une nouvelle façon de concevoir la gravitation. Celle-ci lui apparaît comme n'étant plus une force se déployant au travers de l'espace, mais comme une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Je m'arrête là pour poser une question simple. Au terme de ces 2 révolutions, la relativité restreinte puis la relativité générale, que reste-t-il de l'idée commune de temps ? Pour répondre à cette double question, j'ai invité Roland Lehoucq. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, vous travaillez au CEA et vous connaissez parfaitement ces travaux d'Einstein. Et donc, avec vous, on va essayer de tirer cette question au clair. Que devient le temps en 1905 dans cet article de juin ? Quels sont les postulats auxquels Einstein est arrivé et qui vont bouleverser la façon de comprendre le lien entre l'espace et le temps ?
Alors, dans son article de 1905, Einstein fait 2 postulats qui résultent en fait d'une question qui se pose de l'interprétation d'une expérience d'électromagnétisme qui aurait 2 interprétations différentes selon le point de vue d'un observateur ou d'un autre. Et donc, pour réduire cette asymétrie apparente, il en arrive à donc faire ces 2 postulats. Le premier, essentiellement, c'est une extension du principe de relativité de Galilée, qui disait « le mouvement est comme rien », sous-entendu « le mouvement rectiligne uniforme est comme rien », c'est-à-dire « on ne peut pas le percevoir ». Il y a des pages très belles de Galilée où il décrit, par exemple, ce que percevrait le passager d'un bateau qui serait sur une mer parfaitement lisse, étale, poussé par un vent continu, donc avançant à vitesse constante, et qui, dans sa cabine, par exemple, mènerait des expériences et constaterait, d'après Galilée, des choses tout à fait équivalentes à ce qu'il constaterait si son bateau était à quai. Le poisson dans le bocal nagerait de la même façon, une mouche volerait de la même façon, et des échanges de balles avec un comparse se passeraient de la même façon. Donc ce que fait Einstein, c'est d'étendre ce principe de relativité de Galilée, qui s'appelle maintenant principe de relativité, mais que Galilée n'appelait pas comme ça. Il ne fait que l'étendre à toute la physique connue à l'époque d'Einstein, donc à la mécanique que connaissait Galilée bien sûr, mais aussi à l'électromagnétisme qui a été mis au point, on va dire essentiellement, pas que par lui bien sûr, mais disons résumé et mis de manière cohérente par Maxwell au milieu du XIXe siècle. Et donc il étend donc le principe de relativité de Galilée à toute la physique connue jusqu'alors, disons la mécanique et l'électromagnétisme.
Mais quand Galilée dit « le mouvement est comme rien », ça veut dire que quand je suis en mouvement, rectiligne et uniforme, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement.
Je ne peux, voilà, c'est tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement, ou dit d'une autre façon, aucune expérience menée à l'intérieur du mobile, sans référence à l'extérieur, un mobile clos, sans fenêtre, ne me permet de conclure au mouvement ou à l'immobilité du dit mobile par des manips de physique faites à l'intérieur de manips de mécanique ou des manips d'électromagnétisme. Et Einstein ajoute un deuxième postulat. Alors le premier est une extension, donc bon, après tout, la physique
c'est
a évolué.
C'est pas une invention.
Oui, c'est une extension, mais qui part de quelque chose de déjà conçu par Galilée. Le deuxième est plus scandaleux, d'une certaine façon, parce qu'il va contredire ce que pouvait dire Galilée. Le deuxième postulat d'Einstein nous dit que la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement relatif entre un émetteur, une source et un observateur. Alors ça, c'est déjà plus scandaleux, parce que selon Galilée et selon la physique qui prévalait, disons jusqu'à Einstein, mettons la physique newtonienne ensuite, parce que c'est Newton qui a construit un cadre mathématisé très carré, si j'ose dire, de la physique, on compose les vitesses en les additionnant. C'est-à-dire que si une voiture se déplace à 100 km par heure par rapport à la route, et qu'elle croise une autre voiture en sens inverse qui se déplace aussi à 100 km par heure par rapport à la route, eh bien, une voiture par rapport à l'autre se déplace à 100 plus 100, 200 km par heure. On additionne les vitesses. Bon. Dans le cas de la lumière, ce que nous dit Einstein, c'est que ça ne fonctionnera pas comme ça. Si vous croisez un rayon lumineux qui se déplace à 300 000 km par seconde environ, et que vous le mesurez dans votre laboratoire, mais que maintenant, la source que vous avez étudiée, vous la déplacez à grande vitesse par rapport à vous, par exemple à 100 000 km par seconde, je dis volontairement des vitesses irréalistes et énormes pour bien comprendre le point, eh bien, vous n'allez pas mesurer 300 plus 100 ou 300 moins 100 000 km par seconde, vous allez mesurer encore 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière, sa valeur, est invariante, on dit, par changement de référentiel, elle est la même, quel que soit l'état de mouvement relatif entre la source et l'observateur. Alors ça, c'est plus scandaleux, parce que c'est en contradiction avec, disons, l'addition des vitesses galiléennes. Et ça a une conséquence immédiate, c'est quand on comprend, quand on sait qu'une vitesse n'est rien d'autre finalement qu'un intervalle d'espace, une distance, divisé par un intervalle de temps, une durée, pour avoir une vitesse moyenne, la vitesse moyenne pour parcourir 30 km en une demi-heure, ben voilà, ça fait 60 km par heure, eh bien, quand une vitesse, c'est donc un intervalle de distance, une distance divisée par une durée, et si vous dites qu'il existe une vitesse qui est la même, quelle que soit la façon dont vous mesurez les distances et les durées, quel que soit le référentiel, c'est donc que ce rapport distance sur durée doit varier quand vous changez de référentiel, de sorte que le rapport égal à la vitesse de la lumière, si ça concerne la lumière, soit constant, soit invariant. Et donc vous avez d'emblée la possibilité que, contrairement à ce que le cadre newtonien, disons une extension de ce que pensaient des positions galiléennes, le temps, les durées ne sont pas universelles, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le temps n'est pas quelque chose qui est un élément partagé par tous les observateurs. Le temps n'est pas universel.
Quand on dit qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, on veut dire qu'elles ne sont pas les mêmes pour tous les référentiels.
Pour tous les observateurs.
Mais des observateurs différents dans le même référentiel voient les mêmes choses.
Voilà.
Et mesurent les mêmes choses.
Alors voilà. Donc après, ça veut dire c'est quoi un référentiel? Il y aura cette question dont qu'on va aborder, j'imagine. Mais deux observateurs fixes l'un par rapport à l'autre, s'ils se voient l'un par rapport à l'autre immobiles et qu'ils mesurent la durée que prend un certain phénomène devant leurs yeux, ils vont aboutir, s'ils ont des horloges identiques, ils vont aboutir à des conclusions identiques. Une des conséquences des deux postulats d'Einstein sera que justement, si un observateur est en mouvement par rapport à l'autre, en mouvement relatif par rapport à l'autre, en ligne droite à vitesse constante, et que ces deux observateurs munis d'horloges identiques observent le même phénomène, ils vont mesurer avec leurs horloges, ils vont mesurer des durées différentes.
Et qu'est-ce que ça change? Et d'abord, comment est-ce que Einstein est arrivé à ce deuxième postulat, l'invariance de la vitesse de la lumière qui ne dépend plus de la vitesse de la source? Quels sont les arguments qui l'ont conduit à cette conclusion, à ce postulat révolutionnaire?
Alors, il y a, sans que ça soit un lien direct historiquement, il me semble, mais en tout cas, c'est lié à une expérience qui avait été mené par Michelson et Morley en 1887, époque où on imaginait qu'il y avait un support nécessaire à la propagation de la lumière, qu'on appelait éther. Il fallait, pour que la lumière, comprise comme une onde électromagnétique par Maxwell, démontrée comme une onde électromagnétique par Maxwell, se propage sur un support un peu à la manière dont le son se propage dans l'air ou dans un milieu matériel en général. Donc on imaginait qu'il fallait un milieu particulier, l'éther, dans lequel se propage la lumière et qui soit son support de propagation. Alors ce milieu éther, évidemment, pose un certain nombre de paradoxes, de problèmes, puisque par exemple, la lumière qui nous vient du Soleil traverse l'éther. La Terre, donc, en orbite autour du Soleil, se déplace dans l'éther, ce support de la lumière du Sol, de la lumière qui nous parvient. Elle se déplace dans l'éther, mais si elle se déplace dans l'éther en interagissant avec lui, en frottant sur l'éther, elle doit perdre de l'énergie de mouvement et donc finir par tomber sur le Soleil, ce qu'on ne constate pas. Et donc la Terre doit se déplacer dans l'éther sans frottement sur l'éther. Donc on voit déjà, alors qu'on sait bien que dans tous les milieux habituels, il y a des frottements d'une façon ou d'une autre, entre de contacts, entre les corps, l'un se meut parmi l'autre. Et puis donc, il y avait l'idée que l'on pourrait, si cet éther existe, que l'on pourrait donc révéler le mouvement, un mouvement à vitesse constante, puisque ce mouvement serait, il y aurait une sorte d'absolu, hein, d'observateur ou des référentiels absolus qui c'est celui de l'éther. Et donc ce qu'ont fait Michelson et Morley, c'est d'essayer de vérifier si le mouvement de la Terre autour du Soleil permet de mesurer ce qu'on appelait à l'époque le vent d'éther, de mesurer le fait que la Terre, que la lumière va se composer, sa vitesse va se composer avec celle de la Terre, puisque on va mesurer la vitesse de la lumière sur la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil. Donc si on mesure la vitesse de la lumière dans un sens, disons, dans le sens de mouvement de la Terre, ou dans le sens opposé, opposé au mouvement de la Terre autour du Soleil, on doit trouver, disons, 300 000 plus 30, la vitesse de la Terre autour du Soleil étant de l'ordre de 30 km par seconde, 300 000 plus 30 ou 300 000 moins 30. Et ce que mesurent Michelson et Morley, c'est 300 000 avec une précision de l'ordre de 1%, quelque chose comme 1%.
Mais Einstein ne cite pas ce papier dans son article.
Alors, il ne le cite pas, mais alors on peut imaginer, parce qu'il évoque quand même dans son papier, il évoque l'essai infructueux de confirmer le mouvement de la Terre relativement au médium de lumière. Le médium de lumière, l'éther.
L'éther luminifère.
Il évoque quand même cette idée-là dans son papier, mais il n'en fait pas une sorte de pierre angulaire. Donc il a dû... je ne sais pas, je ne suis pas assez versé en histoire des sciences, peut-être sortir de son chapeau pour partie ce postulat, parce que ça l'a mené à des conclusions qui ensuite étaient cohérentes avec d'autres phénomènes et amené à une vision tout à fait différente de la représentation habituelle, en tout cas newtonienne, disons, de l'espace et du temps.
Dans cet article, Einstein se pose des questions incroyablement naïves au départ. Hein. Qu'est-ce que je veux dire, dit-il, quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare ?
Oui, c'est ça. Il se pose des questions qui ont l'air naïves. Il se pose la question de la simultanéité, finalement. C'est-à-dire, il dit, le train arrive à 7 heures de la gare, cela veut dire que je vois l'aiguille qui est simultanée avec la graduation 7 de l'horloge. Et donc, il se pose la question de la simultanéité et de deux événements. Et il conclut que la simultanéité dépend de l'observateur. Que deux événements simultanés pour un observateur ne le sont pas pour un autre qui serait en mouvement relatif par rapport au premier. Et là, il a beaucoup les trains en tête, hein, comme il travaille sur des questions de synchronisation d'horloge, ça va jouer un rôle important dans ça.
Quand il est à l'office des brevets, en effet, il regarde des brevets électromagnétiques pour
exactement,
synchroniser les horloges.
De comment on synchronise des horloges pour des réseaux de trains, et pour des réseaux de trains que l'on veut plus seulement à l'échelle d'une province, mais à l'échelle d'un pays, voire d'un continent, enfin en tout cas d'une fraction appréciable de l'Europe. Et donc, il fait une expérience de pensée, en se disant, dans le train, il y a une source de lumière au milieu d'un wagon. Le contrôleur regarde cette source de lumière qui va émettre un faisceau lumineux vers l'avant du wagon, la partie qui va le désigner lui comme l'avant, et vers l'arrière. Et la source de lumière est disposée en plein centre du wagon, de sorte que l'événement, le faisceau lumineux arrive en tête, et l'événement, le faisceau lumineux arrive en queue, soit, pour le contrôleur du train, simultané. Alors maintenant, prenons le point de vue du contrôleur qui est sur le quai. Lui, il voit le wagon défiler devant lui.
Le contrôleur est sur le quai ?
Pas le contrôleur, le chef de gare.
Le chef de gare.
L'autre contrôleur, un chef de gare, on va dire un chef de gare. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le chef de gare qui voit passer le wagon, qu'est-ce qu'il constate ? Ben, le faisceau lumineux pour lui a la même vitesse, 300 000 km par seconde, que pour le contrôleur. Ça, c'est le postulat d'Einstein. Et donc, le faisceau lumineux qui va vers l'avant doit, entre guillemets, rattraper le train qui progresse. Donc la lumière est rapide, elle rattrape aisément le train. Et puis à l'inverse, le faisceau lumineux qui va vers l'arrière, lui, il va vers une paroi, l'arrière du wagon,
qui
se rapproche. Et donc, qu'est-ce qu'il constate ? Que le faisceau qui va vers l'arrière touche la paroi avant le faisceau qui va vers l'avant. Et donc les deux événements qui étaient simultanés pour le contrôleur ne le sont plus pour le chef de gare.
Donc on perd l'idée de simultanéité qui était pourtant inhérente à la conception newtonienne du temps.
Absolument.
Le temps était universel
et perdre,
absolu.
Exactement. Et perdre cette notion de simultanéité, c'est une conséquence qui dit brutalement et tout à fait stupéfiante, il n'existe pas de présent universel. Le présent d'un événement, c'est l'ensemble de tous les événements simultanés à un événement donné. Le présent de ma naissance, c'est l'ensemble de tous les événements qui ont été simultanés au moment, au jour et à l'heure dite où je suis né. Et ce présent-là, il était le mien, mais quelqu'un qui se déplace en marchant dans le couloir de la maternité où ma mère a accouché, eh bien, il se déplace à une vitesse relativement faible, donc les effets sont microscopiques, mais, très strictement, ce n'est pas le même présent.
Donc, si je comprends bien Roland Le Houx, ce qui est présent pour moi peut être dans le passé d'un autre observateur, ou bien dans le futur même d'un autre.
Oui, c'est-à-dire que les événements, on peut aussi renverser la chronologie de deux événements, pas à n'importe quelle condition, mais on peut renverser la chronologie de deux événements qui ne sont pas causalement reliés. C'est-à-dire, il y a quand même un point dans cette affaire, c'est qu'il y a l'idée que cette vitesse de la lumière va apparaître comme quelque chose de très important. Même si on l'appelle toujours vitesse de la lumière, on pourrait aussi l'appeler vitesse de propagation de la causalité ou de l'information causale. Et que cette vitesse joue aussi le rôle d'une vitesse limite. Assez rapidement, Einstein comprend que cette vitesse, en lui donnant cette propriété d'invariance, c'est aussi une vitesse limite, une vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, deux événements qui ne sont pas causalement reliés vont pouvoir leur chronologie inverser. Il suffit de trouver le bon référentiel où on les inverse. Mais un événement qui est la cause d'un autre, qui sont éventuellement reliés par un faisceau lumineux, c'est-à-dire que on envoie un événement, je parle et ça a des conséquences plus loin. Je dis à quelqu'un à l'autre bout du monde par un faisceau lumineux, eh bien fait telle ou telle action, c'est déclenché par le signal que je lui ai envoyé. Eh bien ces deux événements-là seront toujours dans le même ordre. La chronologie de ces deux événements sera toujours respectée, quel que soit l'observateur.
Donc si la causalité est engagée dans l'affaire, la chronologie entre deux événements est absolue. Ce qui peut changer, c'est la durée qui sépare la cause de l'effet.
La durée qui sépare la cause de l'effet peut varier, effectivement. Ça, c'est l'idée que l'on peut dilater les durées, comme disait Einstein, en changeant de référentiel. La durée de deux événements dépend du mouvement de l'observateur, de l'état de mouvement de l'observateur.
Donc il n'y a plus de présent, comme vous l'avez expliqué. En tout cas, le présent n'est plus absolu, il est local d'une certaine façon. Est-ce que on peut quand même trouver un moyen, en partant des postulats d'Einstein, de synchroniser des horloges, deux horloges?
Ah oui, bien sûr.
Comment est-ce qu'on fait?
Alors, pour synchroniser deux horloges, Einstein a une méthode encore d'une redoutable simplicité. Vous avez donc ces deux horloges, on va supposer qu'elles émettent leur heure. Ce sont des horloges radio qui émettent leur heure. Ces horloges, la première horloge, pour savoir si elle est synchronisée avec la deuxième, émet un signal lumineux, un signal radio, vers la seconde, qui reçoit ce signal et le réémet vers la première. Et à chaque fois, dans chaque signal, est codée l'heure à laquelle l'horloge 1 a émis son signal.
Pour elle.
L'heure à laquelle l'horloge 2, supposée fixe par rapport à la première, et renvoie le signal vers la deuxième. Et puis, enfin, l'heure de réception du signal. Donc on a finalement trois instants. L'horloge émettrice qui dit « Est-ce que je suis synchronisé avec l'horloge qui est là-bas ?» Elle a trois informations, l'heure d'émission pour elle, l'heure de réception pour elle, et l'heure à laquelle l'horloge à qui elle parle a reçu son propre message. Et les deux horloges sont synchronisées si la moyenne du temps d'émission et de réception est égale au temps de réception à l'horloge à qui l'on parle.
Donc il faut faire un petit calcul.
Il faut faire un tout petit calcul, et si jamais cette égalité toute simple n'est pas vérifiée, l'écart donne la désynchronisation, il n'y a plus qu'à agir. Ça ne se fait pas simplement en tournant un bouton, ça prend une certaine durée, mais il y a tout un protocole électronique, numérique, qui est mis en place dans les horloges atomiques qui discutent entre elles pour établir, par exemple, le temps atomique français.
On peut les resynchroniser si elles apparaissent non synchrones.
Exactement, on peut les synchroniser. Donc la synchronisation entre deux horloges se fait tout simplement par échange d'un faisceau lumineux qui porte une information qui est l'heure de chaque horloge, toutes les horloges étant réputées fixes l'une par rapport à l'autre.
Mais là, c'est le cas simple, elles sont fixes. Qu'est-ce qui se passe si une horloge est en mouvement par rapport à l'autre?
Alors, si une horloge est en mouvement par rapport à l'autre, c'est déjà deux référentiels. C'est-à-dire que Maintenant, on va comme ça pouvoir définir ce qu'est un référentiel, parce que finalement, ces horloges synchronisées, on en a deux. Alors, on peut les imaginer réparties dans tout l'espace, et le référentiel, ça va être tout simplement un ensemble d'horloges fixes les unes par rapport aux autres et qui se synchronisent en permanence les unes avec les autres. Et donc, ça permet de définir le présent des sortes, pour chaque point, les points synchrones, temporellement synchrones.
C'est ce qu'on appelle, elles définissent le temps propre du référentiel.
Exactement. Et si maintenant une horloge est mobile par rapport à toute celle-ci, bon ben elle est mobile, très bien. Si maintenant deux horloges sont mobiles à la même vitesse, alors ces deux-là, fixes l'une par rapport à l'autre et mobiles à la même vitesse par rapport à notre réseau initial, eh bien elles deux, et avec leur copine éventuelle, elles vont définir un autre référentiel. Et on peut comme ça, elles vont construire un autre référentiel qui permettra d'observer le monde comme à partir du premier, avec des mesures qui vont être différentes, et l'on peut raccorder les mesures de l'un aux mesures de l'autre, essentiellement les mesures de position, les mesures de durée, raccorder les mesures d'un référentiel et de l'autre référentiel à partir d'un seul paramètre, qui est simplement la vitesse relative d'un référentiel par rapport à l'autre.
Donc il y a des calculs encore un peu plus compliqués.
Oui, alors
c'est ce qu'on appelle les transformations de Lorentz.
Exactement, c'est la façon dont on va convertir les mesures de longueur et de durée d'un référentiel faites dans un référentiel ou faites dans l'autre référentiel. Pour les convertir de l'un dans l'autre, il faut utiliser ce qu'on appelle ces transformations de Lorentz.
Qui laisse penser qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une dilatation des durées, par exemple.
Alors, il y a
Est-ce que ce terme est le bon terme? Parce que c'est un terme qui suggère que, en fait, il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur. Alors qu'en fait, ce que dit Einstein et que vous venez de rappeler, c'est que il y a autant de temps propre qu'il y a de référentiels différents.
Absolument. C'est-à-dire que, alors, dilatation, c'est le terme consacré. Alors, il peut peut-être être porteur de confusion. Mais c'est l'idée que un observateur voit deux événements qui se succèdent. Il mesure avec son horloge propre. Il va mesurer la durée qui sépare ces deux événements. Un autre observateur verra une durée pour les deux mêmes événements. Un observateur en mouvement par rapport au premier verra une durée, mesurera une durée différente. Et l'on peut passer de l'une à l'autre si l'on connaît la vitesse relative d'un observateur par rapport à l'autre. Donc cette idée-là, que les durées soient dépendent de l'observateur, en fait, elle a l'air tout à fait étonnante, mais finalement, si on revient plus basiquement, au lieu de parler d'espace-temps, de parler d'espace tout court. Si on se dit, quelle est la distance qui sépare Paris de Marseille? Vous allez me dire, ça dépend. Oui, ça dépend. Si je vais par Lyon ou par Bordeaux, la distance pour aller de Paris à Marseille n'est pas la même. Il n'y a rien de choquant. Personne n'est choqué par le fait que la distance qui sépare deux points d'espace, strictement d'espace, cette distance dépend
du
chemin suivi. Ça ne gêne absolument personne. Bon. Maintenant, on ne parle pas de points d'espace, on parle de points d'espace-temps. Donc, c'est un lieu et une date. Et ça s'appelle un événement. Est-il choquant que pour aller d'un événement à un autre, la longueur du chemin suivi dépend du chemin que l'on suit? Ça n'a rien de choquant. Quelle est cette longueur? La relativité restreinte, pour la relativité restreinte, la longueur qui sépare deux événements, du chemin spatio-temporel qui joint deux événements, cette longueur, c'est la durée propre, la durée mesurée par une horloge qui suit ce chemin. Que la longueur soit différente selon le chemin, c'est comme en géométrie, il n'y a rien de choquant. Simplement, cette longueur, c'est une durée propre, la durée mesurée par l'horloge qui suit le chemin spatio-temporel pour aller d'un événement à un autre. Et effectivement, ça a l'air d'aboutir à des conclusions qui nous paraissent étonnantes. Habitués que nous sommes, avec nos faibles vitesses, habitués que nous sommes à ce que le présent soit quelque chose d'universel, que les durées mesurées soient les mêmes pour tout le monde, habitués que nous sommes à une situation newtonienne, disons.
Donc ça veut dire que si on a l'impression que Newton avait raison, y compris aujourd'hui, c'est parce que nos vitesses de déplacement, même en avion, en navette spatiale, sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière.
Exactement, sont très petites devant celle de la lumière. Néanmoins, la qualité des horloges modernes, des horloges atomiques modernes, typiquement, ces horloges atomiques savent tenir le temps avec des déviations qui sont de l'ordre de la seconde par milliard d'années. Donc, c'est des précisions, disons, remarquables. Avec cette qualité-là, on sait maintenant mesurer cette dilatation des durées, cette différence de durée qui sépare deux événements. On sait la mesurer entre un observateur réputé fixe et un autre qui prend son horloge atomique sur sa bicyclette. Donc, à des vitesses, vous voyez, de l'ordre d'une dizaine, vingtaine de kilomètres par heure. Donc on sait mesurer ça de manière extraordinairement précise maintenant, grâce aux horloges atomiques, sachant qu'on s'est rendu compte de ces effets-là bien avant la qualité des horloges atomiques, en particulier en observant la désintégration de particules comme les muons, qui a une durée de vie de l'ordre de 2 millionièmes de seconde, pouvait avoir une durée de vie apparente, quand il a une grande vitesse...
Par rapport à nous,
des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, qui sont bien supérieures à 2 millionièmes de seconde.
Ça veut dire que si nous arrivons à prendre rendez-vous, c'est parce que nos vitesses de déplacement sont faibles, mais des particules, comme l'électron par exemple, qui vont très vite dans l'espace, auraient du mal à prendre un rendez-vous avec un autre électron.
Oui, il faudrait qu'ils discutent. C'est-à-dire que là, on comprendrait que prendre rendez-vous, c'est pas seulement fixer un lieu et une heure, c'est aussi fixer une vitesse relative, comme on le comprend d'ailleurs très aisément dans les rendez-vous spatiaux, parce que là, les astronautes sont à la fois quelque part à un instant donné et aussi en mouvement, avec une certaine vitesse, en orbite autour de la Terre.
Alors, dans ce que vous dites, ça a surgi de façon assez naturelle ce qu'on a appelé, Roland Luke, le paradoxe des jumeaux de Langevin.
Ah ben là, il découle directement.
Alors, est-ce que c'est vraiment un paradoxe ?
Ben, d'après ce qu'on vient de dire, absolument pas. C'est simplement deux personnes... Alors on prend des jumeaux pour que l'effet ait l'air spectaculaire, qui vont mesurer la durée qui sépare deux événements, départ du jumeau voyageur, et le deuxième événement, retour sur Terre du jumeau voyageur. Le jumeau terrestre reste sur Terre, attend sagement le retour de son frère ou de sa sœur. Ce jumeau voyageur s'en va dans l'espace à une grande vitesse, disons proche de celle de la lumière, il revient sur Terre. Il y a donc deux événements, et chacun mesure la durée qui sépare ces deux événements avec son horloge, qui mesure son temps propre, en durée propre. Et ils vont trouver des durées différentes, parce qu'ils ont suivi des chemins spatio-temporels différents. L'un est resté sur Terre, l'autre a fait un grand mouvement dans l'espace. Et donc cette différence peut être spectaculaire, si l'on a des vitesses proches de celles de la lumière. Ça peut être quelques années d'attente pour le jumeau terrestre, quand le jumeau voyageur ne voyage que quelques semaines ou quelques mois.
Mais le voyage du jumeau voyageur ne change rien à son temps propre, parce qu'il reste immobile par rapport à lui-même.
Absolument. Pour le jumeau voyageur, rien ne change. Là, c'est le principe de relativité. Son horloge atomique, celle qui mesure son temps propre, la même horloge atomique, identique à celle de son jumeau terrestre. Ces deux horloges sont identiques, fonctionnent selon les mêmes lois de la physique.
Donc, il va mesurer les mêmes battements cardiaques que l'autre.
Les principes de relativité nous disent que la physique étant la même dans tous les référentiels, eh bien, ils vont mesurer les durées. Les horloges vont battre les mêmes secondes, mais une horloge battra moins de secondes que l'autre. L'horloge du jumeau voyageur battra moins de secondes que l'autre. C'est le cas de notre arpenteur de Paris à Marseille. On ne se dit pas « Ah, mais l'arpenteur qui est passé par Bordeaux, il a mesuré plus de mètres, c'est sûrement que son mètre était plus court. » Personne ne dit ça. C'était le même mètre. Et bien là, la même chose, ce sont les mêmes secondes, les mêmes battements de cœur. Et battements de cœur qui est une manière d'horloge pas très précise, mais qui quand même...
Galilée s'en était servi.
Oui, Galilée a tenté le coup avec des battements de cœur. Et donc, les horloges vont fonctionner exactement de la même façon. Donc, c'est simplement... les trajectoires spatio-temporelles, la chronogéométrie, finalement la façon dont on mesure les distances dans l'espace-temps, qui n'est pas la même que la façon dont on mesure les distances dans l'espace tout court.
Mais vous dites vous-même, c'est une chronogéométrie, Roland Luke, et pourtant on l'appelle théorie de la relativité.
Oui,
alors que c'est une théorie de l'absolu. Elle dit ce qui est absolu, ce qui ne change pas quand on change de référentiel.
Exactement. Et chronogéométrie, c'est un mot que j'emploie, que je reprends de Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui proposait effectivement, le fait qu'il y a une particularité à cette géométrie de l'espace-temps, la façon dont on détermine la distance spatio-temporelle qui sépare deux événements.
Mais Einstein lui-même, en 1933, a reconnu qu'elle avait été mal nommée.
Oui, alors
et s'il avait eu le choix, il dit qu'il l'aurait appelé la théorie des invariants.
Des invariants. Ben oui, parce que finalement, il a fondé sa théorie sur des propriétés qui sont invariantes. Les lois de la physique sont invariantes par changement de référentiel. C'est ça que veut dire le principe de relativité. Et la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. C'est ça son deuxième postulat. Alors on peut remarquer quand même une chose, c'est que ce deuxième postulat, il n'en est pas besoin en réalité. Il n'est pas besoin. On peut construire la relativité restreinte sans faire explicitement référence à l'électromagnétisme, à la lumière, avec quelques hypothèses très générales qui sont l'homogénéité de l'espace et du temps, ici ou là, dans l'espace ou dans le temps, c'est pareil, l'isotropie de l'espace, la direction n'a pas d'importance, et le principe de causalité est préservé, la causalité est préservée par changement de référentiel. Avec ces quatre hypothèses, on peut reconstruire complètement la façon dont il faut opérer pour passer des mesures d'un référentiel aux mesures d'un autre référentiel en mouvement relatif par rapport au premier. Et on obtient, apparaît spontanément une quantité qui a les dimensions d'une vitesse, qu'on pourrait appeler constante d'Einstein. Et cette vitesse a la propriété, a deux propriétés, qui sont en fait une seule, mais disons énoncées de deux façons différentes. L'une, c'est qu'elle est invariante par changement de référentiel. Deux, c'est une vitesse maximum qu'on ne peut pas dépasser, et c'est la vitesse de la propagation de l'information causale. Donc émerge spontanément une quantité qui a les dimensions d'une vitesse, dans un cadre beaucoup plus général que ne l'a fait Einstein. Et après, la question se pose, mais quelle est cette vitesse? Combien vaut-elle? Eh bien, il suffit d'examiner parmi les acteurs physiques qui a a une vitesse qui a les propriétés de la constante d'Einstein. Eh bien, la lumière a ses propriétés. Et donc, on voit que quand on dit vitesse de la lumière, en fait, on parle de deux choses. On parle de la propriété des ondes électromagnétiques qui se déplacent à telle vitesse, 300 000 km par seconde. Et on parle aussi de quelque chose qu'on appellerait la constante d'Einstein, qui est cette vitesse qui apparaît spontanément quand on cherche à construire de manière très générale la façon dont on passe de la description d'un référentiel à un autre.
Alors cette théorie que vous décrivez là, Roland Luc, elle s'appelle la théorie de la relativité restreinte, et pourtant c'est une théorie générale de l'espace-temps.
Oui, quand je dis...
Pourquoi on l'appelle restreinte ?
Restreinte, alors... Parce qu'elle est restreinte parce qu'elle ne tient pas compte d'une chose qu'Einstein a évincée dans son... Dans ce raisonnement, c'est la gravitation. Il a mis la gravité de côté quand il parle de son principe de relativité initial, son premier principe de relativité. Ensuite, il a réfléchi, une fois qu'il avait bâti cet espace-temps, il a réfléchi à la façon dont on pourrait maintenant intégrer la gravité dans ce cadre-là. Et il a abouti à sa théorie de la relativité dite générale, qui est une théorie de la gravitation.
Spécifique.
Oui, spécifiquement.
Voilà, la générale.
Oui, alors qui est une théorie de la gravitation et qui se fonde, alors le postulat de départ, ce qu'on appelle le principe d'équivalence d'Einstein, se fonde sur en fait deux postulats qui sont tout à fait importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence faible, l'idée que masse inertielle et masse gravitationnelle sont identiques, c'est-à-dire... En gros, les corps tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. La masse inertielle, ça quantifie, pour un corps, ça quantifie sa résistance à changer d'état de mouvement sous l'influence d'une force. C'est plus compliqué de déplacer une armoire normande que de déplacer une petite bouteille d'eau. Bon, ça paraît assez naturel, ça a quelque chose à voir avec la quantité de matière. Mais il y a une autre chose qui est aussi la masse gravitationnelle, qui est l'équivalent gravitationnel de la charge électrique, la façon dont un corps va se coupler à un champ de pesanteur, la façon dont il va subir le champ de pesanteur. Et donc, il se trouve que, expérimentalement, ces deux quantités sont égales, et maintenant, grâce au satellite microscope, on sait qu'elles sont égales à quasiment 10 puissance moins 15 près, un millionième de milliardième près. Bon. Donc, ces deux choses sont égales. À l'époque d'Einstein, on le savait déjà, à des précisions qui étaient déjà de l'ordre du millième de milliardième. Première chose, masse inertielle et masse gravitationnelle sont égales, les corps chutent de la même façon, quel qu'il soit, dans un champ de pesanteur. Deuxième idée qu'ajoute Einstein, c'est qui complète le principe d'équivalence faible pour en faire son principe d'équivalence dit d'Einstein, c'est que les effets d'un champ de gravité, pour une expérience qui n'utilise pas la gravité, les effets d'un champ de gravité sont équivalents à ceux d'un référentiel, d'une accélération. Et elles sont équivalentes localement, dans l'espace et dans le temps. Donc, si vous ne regardez pas trop large autour de vous et trop longtemps, si vous n'observez pas ça pendant trop longtemps.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire si je tombe, je ne sens pas mon poids ?
C'est exactement ce que traduit cette façon technique. Cette traduction que je viens de donner est traduite de façon imagée par l'idée qu'Einstein a eue en 1907, cette idée qu'il a qualifiée de plus heureuse de sa vie, se dire que si je suis en chute libre, je ne ressentirai pas mon poids. L'idée que si je suis en chute libre, on peut faire l'expérience. Hein. La prochaine fois que vous êtes qu'un ascenseur se décroche, hein. Inutile de hurler, ça ne sert à rien, vous allez vous écraser, vous êtes promis une mort certaine. Faites de la physique. Sortez de votre poche vos clés. Vous les tenez dans votre main. Vous êtes en chute libre dans l'ascenseur. Elles tiennent, elles tombent avec vous, bien sûr. Mais pendant cette chute, lâchez vos clés. Lâchez-les sans vitesse initiale, sans les projeter. Il faut agir rapidement. Attention, l'ascenseur va bientôt s'écraser. Que va-t-il se passer ? Eh bien, vos clés qui... Principe d'équivalence faible, égalité de la masse inertielle et gravitationnelle, universalité de la chute libre, elles vont tomber exactement au même rythme que vous, Et vous allez les voir, finalement, fixes devant vous.
En lévitation.
Comme si la pesanteur avait disparu. Comme si la pesanteur avait disparu. Et donc, c'est cette idée donc Einstein a qualifié de plus heureuse de sa vie, qui lui a donné l'idée de son principe dit d'équivalence.
Donc, la gravitation qui est la cause de ma chute produit un effet qui annule la gravitation qui produit cet effet.
Qui me donne dans mon référentiel en chute libre l'illusion que la gravité a disparu. D'une certaine façon, on peut effacer la gravité en se mettant dans un référentiel idoine qui n'est plus un référentiel en translation rectiligne uniforme, comme les référentiels galiléens, les référentiels inertiels dont nous parlions tout à l'heure, mais qui est cette fois-ci un référentiel uniformément accéléré, qui est un référentiel en chute libre dans le champ de pesanteur.
Donc la gravitation qui provoque l'accélération de ma chute annule pour moi la gravitation.
Exactement.
Donc une accélération peut mimer ou annuler la gravitation.
Dans ce studio, où nous ne voyons pas l'extérieur, en fait, France Culture a un budget considérable et a décidé que ce studio, maintenant, était propulsé vers le plafond, grâce à une fusée. Nous sommes en fait en orbite, cher Étienne, bientôt en orbite autour de la Terre, depuis 40 minutes.
En dehors de toute gravitation.
Exactement, en dehors de toute gravité, parce que nous n'avons pas l'impression d'avoir quitté la Terre et sa gravité, parce que nous sommes dans une fusée qui nous propulse vers ce que nous appelons le haut, vers le plafond, avec une accélération exactement égale à celle de la pesanteur de la Terre. Et cet effet-là est indiscernable, pourvu que le studio ne soit pas trop grand et que nous ne nous intéressions pas à cet effet pendant une durée trop longue.
On verra à la sortie.
Exactement.
Alors en quoi ça va modifier la façon de comprendre la gravitation et en quoi ça va affecter la façon de décrire l'espace-temps, Roland Lehoucq?
Alors, ce postulat, finalement, ce principe d'équivalence d'Einstein a une conséquence, c'est que la géométrie de l'espace-temps qui découlait de sa relativité restreinte va être modifiée, puisqu'il suffit finalement d'être en chute libre pour être localement, comme dans un référentiel de la relativité restreinte, eh bien, il va falloir maintenant se dire que dans un paysage gravitationnel, on va pouvoir par petits bouts, par une sorte de patchwork de référentiel, pouvoir décrire tout ce paysage, mais non plus globalement, mais par petits bouts, par petits morceaux qu'on va pouvoir coller les uns par rapport aux autres et comprendre comment il va falloir passer d'un référentiel à un autre. Et c'est tout, ensuite, toute la difficulté qu'il a eue mathématiquement ensuite d'écrire les équations qui régissent ces transformations-là, qui lui ont coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts.
Il s'est un peu aidé par quelques mathématiciens.
Oui, il s'est fait aider par des mathématiciens, mais Einstein n'était pas complètement obtus en mathématiques, mais il s'est fait aider par des mathématiciens, et ça a mis 1907, cette première idée très extraordinaire, très, très frappante pour lui, 1915, la publication de sa théorie complète de la relativité générale, mathématisée, et donc il lui a fallu un certain temps, ça a été un effort beaucoup plus considérable que la relativité restreinte. Et dans cette vision-là du monde, comme vous le disiez en introduction, il y a l'idée que cette fois-ci, la géométrie de l'espace-temps dépend de l'endroit où on est, et ça décrit finalement ce qui a été apparu en mathématiques quelques années auparavant, des espaces courbes, des espaces dont la structure, des espaces qu'on appelle non euclidiens, dont la structure, dans la géométrie, la courbure dépend de l'endroit où on se trouve. Et cette courbure, dans la théorie d'Einstein, est précisément une manière de mesure de l'intensité du champ de gravité.
Roland Lehoucq, cette histoire de relativité générale là, que vous avez rapidement ébauchée change la façon de mesurer les durées.
Absolument. C'est-à-dire que maintenant que l'on est dans un cadre relativité générale, où l'espace-temps est un mollusque, hein, pour reprendre les mots d'Einstein, mou, déformable, alors la mesure des durées va dépendre de l'intensité du champ de pesanteur, si on reste en vision newtonienne. Autrement dit, une horloge au sol et une horloge en altitude vont mesurer des durées différentes. Et en particulier, une horloge au sol va retarder par rapport à une horloge située en altitude. Et donc ça, Einstein a très tôt, hein, dès 1907 déjà, bâti une expérience de pensée avec cette analogie, un référentiel accéléré est équivalent à un référentiel subissant un champ de pesanteur. En envisageant la même expérience dans ces deux cadres, il a rapidement conclu qu'il devait effectivement y avoir des différences de durée mesurées par une horloge au sol et une horloge en altitude.
Vous voulez dire qu'une horloge peut servir d'altimètre ?
Exactement. Et avec une horloge atomique moderne, on peut mesurer des différences d'altitude de l'ordre du mètre.
Mieux que n'importe quel altimètre.
Alors, mieux, je ne sais pas si c'est mieux, je ne suis pas au courant des qualités des altimètres, mais on peut le faire. Et quand on pense maintenant, par exemple, à Thomas Pesquet, qui est en orbite autour de la Terre dans la Station Spatiale Internationale, il est là à la fois en mouvement assez rapide autour de la Terre, de l'ordre de 7, un peu plus de 7 km par seconde. C'est pas complètement négligeable. C'est très faible par rapport à la vitesse de la lumière, mais c'est pas totalement négligeable. Et il est aussi en altitude. Et il y a une différence de durée. L'horloge Thomas Pesquet, ou une horloge atomique à bord de l'ISS, ou une horloge atomique à bord des systèmes du réseau GPS ou du réseau de localisation Galiléo, eh bien, on peut calculer qu'au bout de 6 mois d'ISS, on a un rajeunissement, une durée mesurée par Thomas Pesquet qui est à peu près 5 millièmes de seconde plus courte que celle qu'il aurait mesurée s'il était resté au sol.
Quelle est la part qui revient à sa vitesse et quelle est la part qui revient au fait qu'il est en altitude, il est à 400 km à peu près.
Exactement.
Au-dessus du niveau de la mer.
Alors là, les deux, alors ça se calcule, je sais pas exactement j'ai pas les valeurs exactement en tête, mais ça se calcule tout à fait. Et il y a effectivement, cette part dépend de l'altitude puisque la vitesse orbitale dépend de l'altitude et l'écart gravitationnel de mesure de durée dépend aussi de l'altitude.
Donc il gagne quelques fractions de secondes pour 6 mois de résidence.
Exactement, 5 millièmes à peu près, 5 millièmes de seconde, je crois.
C'est pas très rentable.
Non, c'est pas très rentable. C'est-à-dire que si vous avez envie de rajeunir, il faut passer vraiment longtemps, il faut passer vraiment longtemps dans l'ISS.
De rajeunir par rapport aux autres.
Par rapport aux autres.
Pas par rapport à vous-même, par définition.
Exactement. Ah oui, pas par rapport à
vous-même. Son temps propre.
Dans son temps propre,
pas de changement.
Il n'y a aucun changement. Son cœur, pareil. Enfin, tout se passe comme d'habitude, comme s'il était posé à la surface de la Terre.
Alors, est-ce qu'on a le droit de parler du temps lui-même, ou est-ce qu'à chaque fois qu'on utilise ce concept, on doit le rapporter à l'espace-temps courbé de la relativité générale, ou bien, s'il n'y a pas de gravitation, à l'espace-temps statique et rigide de la relativité restreinte?
Pour la vie quotidienne, essentiellement, la vision Newton marche très bien, sans se prendre la tête. Ensuite, si on veut rentrer dans le cadre relativiste, qu'il soit gravitationnel, enfin restreinte ou générale, il faut imaginer qu'en fait, chaque observateur doit se déplacer avec son temps propre, avec son horloge de bord, sa montre, ce qui est avec lui et qui mesure ses durées. Et c'est ça qu'il doit faire foi, c'est à ça qu'il doit se référer. Et ensuite, discuter avec ses collègues, discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas suivi la même ligne spatio-temporelle, parce qu'ils ont été un peu plus vite, ils ont été un peu plus lents que lui, ils sont montés en altitude, ils sont descendus éventuellement dans le métro. Bref, il y a eu des changements, et donc il y a des tout petits écarts qui sont extrêmement faibles.
Ce qui est embêtant, c'est que dans le temps propre de ce référentiel, nous avons atteint la limite temporelle de cette émission. J'en suis désolé, mais je vous remercie. Il faudra que vous reveniez parce que j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs l'anagramme de la théorie de la relativité restreinte?
Non.
Ça donne vérité théâtrale et loi intersidérale.
Bon, excellent. Ça me plaît bien comme astrophysicien.
À une prochaine fois. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Félix Delacour et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Tout de suite, c'est-à-dire pas plus tard que dans quelques instants, nous retrouvons Bruno David pour sa chronique Le pourquoi du comment.